Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Le Lièvre de Patagonie, de Claude Lanzmann. L'autobiographie de l'auteur de la Shoah bouscule les codes du genre. Construite au fil des souvenirs, elle entraîne ses lecteurs dans un roman d'aventure, mêlant portraits intimes, Sartre et Beauvoir parmi d'autres, tableaux d'une époque, chronique de la vie intellectuelle, l'aventure des temps modernes et récits de voyage. Claude Lanzmann, voyageur, nous fait traverser le siècle. Israël, où il se rend pour la première fois en 1952, l'Afrique du Nord et sa rencontre avec Frantz Fanon, la traque des survivants et des témoins de la Shoah qui le conduit en Allemagne, en Israël, en Pologne, aux États-Unis. De toutes ces rencontres, celle avec Abraham Bomba, le coiffeur de Treblinka, est sans doute l'une des plus belles. C'est celle d'un des personnages principaux de la Shoah, qu'il finit par localiser à New York, perd de vue, retrouve et qu'il filme, dans un salon de coiffure de Tel Aviv. Confiant, les larmes aux yeux, comment il coupait les cheveux des déportés avant qu'elles n'entrent dans les chambres de gaz. Pour autant, cette autobiographie n'est pas un livre marqué par la mort. « Je ne suis ni blasé, ni fatigué du monde », a écrit Claude Lanzmann. « Sans vie, je le sais, ne me lasserai pas ». Claude Lanzmann est né le 27 novembre 1925 à Bois-Colombes, en région parisienne, dans une famille dont les différentes branches sont originaires des communautés juives askénazes émigrées en France à la fin du XIXe siècle. En 1934, à la suite du divorce de ses parents, il part avec ses frères et sœurs vivre à Brioude, en Haute-Loire. Ils y restent jusqu'en septembre 1938. Lorsque la famille retourne à Paris, Claude poursuit ses études au lycée Condorcet. À la rentrée 1943, Claude Lanzmann entre en lettres supérieures au lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand comme interne. À 18 ans, il devient membre des jeunesses communistes, alors clandestines, et l'un des organisateurs de la résistance de Clermont-Ferrand. Il participe à la lutte clandestine, puis au combat des maquis d'Auvergne, à la Margeride, au Mont-Mouché, aux embuscades dans le Cantal et dans la Haute-Loire pour retarder la montée des troupes allemandes vers la Normandie lors de l'été 1944. Après la libération, sa famille revient vivre à Paris. Claude Lanzmann, qui a retrouvé sa mère et le compagnon de celle-ci, Moni de Bouly, est admis en janvier 1945 en première supérieure au lycée Louis-le-Grand. Il y rencontre Jean Caux, avec qui il noue une grande amitié. Ayant échoué au concours d'entrée à l'école normale supérieure, il s'inscrit en licence de philosophie à la Sorbonne. En 1948, il obtient un poste de lecteur à l'Université libre de Berlin, un secteur américain. À son retour en France, il devient pigiste pour le groupe de presse de Pierre Lazareff. Sartre lui demande de participer aux réunions des temps modernes, place Saint-Germain-des-Prés, et il devient l'ami de Simone de Beauvoir. À partir de juillet 52, il vit donc une histoire d'amour avec Simone de Beauvoir, et malgré leur rupture en 1959, il demeurera très proche d'elle jusqu'à sa mort en 1986. Claude Lanzmann succède à Simone de Beauvoir comme directeur de la revue Les Temps Modernes en 1986. En 1963, il épouse l'actrice Judy Magre, dont il divorce en 1971. Cette même année, il s'unit à la romancière allemande Angelika Strobothorf, puis en 1995, il épouse Dominique Petit-Horry. Claude Lanzmann a deux enfants, Angélique et Félix. Ce dernier, fils de Dominique Lanzmann Petit-Horry, étudiant normalien, est mort du cancer en 2017. Une lettre à son chirurgien narrant son combat contre la maladie, suivie de quelques fragments datés, est publiée dans Les Temps Modernes, dans un numéro qui lui est dédié Il est inhumé au cimetière du Montparnasse. Claude Lanzmann meurt le 5 juillet 2018 à l'hôpital Saint-Antoine de Paris, le lendemain de la sortie au cinéma des Quatre Sœurs. Son éditeur déclare qu'il était affaibli les derniers jours, en rajoutant que le cinéaste journaliste était très affecté depuis la mort de son fils. Le 12 juillet 2018, il est inhumé au cimetière du Montparnasse, dans la même tombe que son fils, Félix, et dans le même cimetière que Simone de Beauvoir, dont il fut le compagnon. Claude Lanzmann est connu comme le réalisateur de Shoah. 12 ans de travail, recherche documentaire, recherche des survivants, des bourreaux, des témoins, une dizaine de campagnes de tournage et presque 6 ans de montage avec la monteuse Ziva Postek, avant que le film ne sorte en 1985. D'une durée de plus de 9 heures, Shoah est considéré comme un monument du cinéma. Sans images d'archives, il parvient à dire l'indicible sur le génocide. La mère de Claude Lanzmann, Paulette de Bouly, épouse en seconde noce du poète Moni de Bouly, est décédée le 4 août 1995. Claude Lanzmann lui rend hommage au cimetière du Montparnasse le jour de ses obsèques, le 8 août 1995. « Maman, tu étais une athée intraitable. J'ai relu hier la lettre dans laquelle tu prescris, d'une haute et claire écriture, l'ordonnancement de cette cérémonie des adieux. Tu y réitères fermement, saine de corps et d'esprit, signes-tu, ta volonté cent fois exprimée d'avoir un enterrement civil. Au contraire de beaucoup qui, après des vies de militantisme laïque et parvenus au terme de leur âge, oublient, sait-on jamais, de dire ce qu'ils souhaitent et reçoivent, comme à la sauvette ce qu'on appelle les secours de la religion. Tu n'as, toi, jamais varié, jamais cédé. Je me souviens d'une conversation rue du Bac, un soir d'été, il y a quelques années. Nous avions décidé de dîner en tête à tête, ce qui était rare et se terminait souvent mal. Tu marchais, encore, mais voûté déjà, agrippé à mon bras avec une énergie si incroyable qu'il était difficile de démêler qui, dans cet enlacement, soutenait qui, et tu me disais, je voudrais pouvoir apporter exactement tes paroles, tant elles étaient fortes et belles, que la grandeur de l'homme était de faire face, de lutter jusqu'au bout, d'accomplir ce qui devait l'être en refusant toute consolation, en sachant qu'il n'y en a ni au-delà, ni vie éternelle, mais le néant, seul. Tu récusais Dieu, mais fondais en vraie mère courage la plus orgueilleuse des morales. Gravé sur la stèle de la tombe où tu reposeras tout à l'heure, auprès de ma sœur Evelyne, et de Moni de Bouly, l'homme qui t'a adoré, jour après jour, sans une défaillance, et que tu as, toi aussi, absolument aimé, il y a ce poème déchirant, dont Moni est l'auteur, poème sur la mort et le néant impensable. Impensable pensée à laquelle tu es demeuré fidèle jusqu'au bout. Passé, présent, avenir, où êtes-vous passé? Ici, n'est nulle part. Là-haut, jetez le harpon. Là-haut parmi les astres monotones. Il n'y aura donc ici ni rabbin, ni kippa, ni kadish. Et si je sonne, pourtant pour toi, maman, le dernier appel juif, je le ferai seul, silencieusement, dans le secret de mon cœur, et pour des raisons qui sont miennes. Si tu ne croyais ni aux prières, ni aux liturgies, tu aimais au contraire les mots à la folie. Tu aimais et exigeais la parole. Tu as dit à maintes reprises que tu voulais sur la tombe, à l'instant d'être porté en terre, un discours. Et c'est à moi qu'échoit cette harangue. C'est à moi, me dit-on, que tu avais dévolu cette impossible tâche d'oraison. Mais maman, il faudrait non pas un, mais 100 bossuets, à la condition bien sûr qu'ils ne fussent pas évêques. Comment en effet prendre et dire ta mesure lorsqu'on est ton fils et dans le chagrin? Car tu mérites non pas quelques paroles, mais tout un livre. J'ai souvent pensé que je m'y essaierais un jour. Je le pensais bien avant ta mort, et je me disais que si j'y parvenais, si je réussissais à dresser ta vivante statue, à dire ce qu'il y a eu de passionné et d'inextricable dans notre relation, avec la question centrale de l'amour sans cesse nouée, dénouée, renouée, ce serait l'œuvre la plus difficile et celle dont j'aurais peut-être lieu d'être le plus fier. » Mais il est trop tard ou trop tôt, et je dois parler tout de suite, sans préparation, sans méditation, dans la fatigue et la ferment suscitée par l'événement de la mort. C'est vrai, j'avais beau la savoir inéluctable, en pressentir certains jours l'imminence, j'en reculais l'échéance à l'infini, tant le monde sans toi, le monde sans Paulette était inconcevable. Et ta force vitale, stupéfiante, m'entretenait dans l'illusion certitude que si tu étais la plus forte. Mais c'est bien, en un sens, ce qui s'est passé. Car à 93 ans, sourde, presque aveugle, cassée par l'âge, tu es morte chez toi en pleine jeunesse, l'esprit aiguisé et intact, avec une curiosité des choses, des gens, une voracité de vivre jamais démentie. La plupart de ceux qui sont ici cet après-midi peuvent témoigner que tu n'étais pas chlorotiquement éteinte, mais que tu es tombée, fauchée comme un soldat, restant jusqu'à la fin la Paulette violente, indomptable, impérieuse. Plus impérieuse encore, de te sentir impotente, tu aboyais des ordres inexécutables, impatiente, rusée, courageuse, d'une tranchante intelligence, débusquant les compromis, les faux-semblants, le mensonge à soi, la Paulette drôle, à l'humour tout à la fois ravageur et rêveur, rendu rêveur par une si longue vie. La Paulette antiquaire, experte d'une culture immense, infiniment savante et imbattable dans ses spécialisations. Paulette mémoire vive et éléphantesque du siècle, mémoire de la lutte des femmes, nous enchantant de ces confrontations fulgurantes entre aujourd'hui et tous les hier, hiver qu'elle avait connu. La Paulette mère emblématique et générique de tous mes amis de Cagnes au lycée Louis-les-Grands, de tous ceux de mon frère Jacques. Elle n'était pas seulement la mère de Claude, Jacques et Evelyne. Elle était la mère. C'est Jean Coe qui l'avait ainsi baptisée. René Guyonnet, lui aussi mon condisciple à Louis-le-Grand, René qui est ici aujourd'hui parmi nous, ne l'appelait pas autrement. Elle attirait, attisait leurs confidences à tous, avec une géniale avidité. Tous étaient ses fils, et elle les aimait autrement et plus en un sens que les siens propres, car elle entretenait avec son engeance, sa langeance, une relation spectaculairement dépourvue d'indulgence. Tous lui sont restés fidèles, gardant avec elle d'infracassables relations quand se distendait leur lien avec nous. Même chose pour les bruits innombrables, les statutaires et les autres, qui jacassaient avec elle du sucre sur notre dos des décennies après la fin des amours. Je caricature, bien sûr. Judy Magre, ma première femme, a passé avec Paulette sa dernière soirée, celle du 3 août. Ma mère, m'a dit Judy, était gaie et éblouissante comme jamais. Elles étaient deux vraies amies qui le plus souvent parlaient de tout sauf de moi. Mais le 3 août, m'a rapporté Judith, après que je lui eusse le lendemain annoncé la nouvelle, la lancinante question de l'amour filial avait à nouveau été posée. Judith me dit pieusement avoir réussi à la persuader que, oui, son fils l'aimait. J'en doute fort, on ne convainquait pas si aisément une telle investigatrice, un pareil procureur. Elle voulait des aveux complets, verrouillés, circonstanciés, coulpe battue, demande agenouillée de pardon. Ces lettres, d'intenses réquisitoires de 20, 30, 40 pages, d'un style grand siècle toujours magnifique, j'en ai tant reçu. Elles étaient vraies et fausses, justes et injustes, mais entraînait toujours mon admiration. Son courage pendant la guerre, qu'elle a passé tout entière à Paris avec de faux papiers, sans carte d'alimentation, arrêtée trois fois par la Gestapo et la milice, tenant tête à ses tourmenteurs, se battant pied à pied et s'en sortant chaque fois par sa seule audace. Nos retrouvailles, À la fin de 1944, après une séparation de 10 ans, visite très rare de 1934 à 1938, puisque nous habitions la province avec notre père, tandis qu'elle sertissait en usine des boîtes de sardines dans la banlieue parisienne. Puis une fois par semaine, de 1938 à 1939, dans la chambre de l'hôtel Garni de la rue Mira, où elle vivait alors, nous offrant pour seul déjeuner ces tartares de cheval qui constituent aujourd'hui encore mon ordinaire. Enfin, l'abéance de l'occupation. Elle avait quitté des enfants, elle retrouvait des hommes. Mais quelle drôlerie, quel autre monde pour mon frère et moi, quelle fête. Je nous revois, debout, nus comme des vers. Moni, Jacques et moi, faisant la queue à la porte de la salle de bain, comme pour un conseil de révision. Nous entrions chacun à notre tour. Elle officiait, nous lavant, nous savonnant de la tête aux pieds, nous pansant, nous étriant, nous examinant sous toutes les coutures, lippe écœurée devant une épaule trop basse, un testicule au perché. « Tu tiens cela du père Lanceman ?» maugréait-elle. Le père Lanceman était évidemment mon père, qu'elle haïssait avec une inébranlable constance. Un tour, recevant à dîner Jean Cocteau, elle s'était emparée de la parole à sa façon éblouissante et ne l'avait plus quittée. Elle m'avait reproché après son départ d'être demeurée muet, ce qui, pour un cagneux orgueilleux, en permission du samedi, était la moindre des choses. J'écoutais, c'est tout. Alors elle m'avait apostrophé. Les pieds de Jean, ses petits pieds, les as-tu observés ? Elle trouvait les miens vagues et bêtes, ceux de Cocteau au contraire, informés jusqu'aux gros orteils par l'intelligence la plus déliée. Elle aimait les petits pieds, signe d'innocence. Je la revois, il y a seulement quelques semaines, portant à sa bouche ceux de Félix, mon petit-fils de 2 ans, que Dominique et moi lui avons donné. Elle aimait, malgré brouille, rupture, malédiction, chacun de ses 8 petits-enfants. Les souvenirs se pressent maintenant. Maman, je ne savais pas civil. Je voudrais écrire, écrire encore, pendant des nuits. Mais un fils ne peut pas tout dire. Par exemple ceci, que je lis dans une lettre de Marthe Robert, reçue ce matin même, et qu'elle ne m'en voudra pas de divulguer. Mon cher Claude, j'en prends la mort de Paulette par le monde d'aujourd'hui. Vous savez que je l'ai bien connue. À une certaine époque, j'allais très souvent la voir, et je me plaisais beaucoup en sa compagnie. Surtout, j'admirais sa beauté. Elle me semblait incarner toute la noblesse des antiques filles d'Israël. J'ai été touché aux larmes quand je l'ai vue venir à moi, marchant difficilement à vos côtés, le jour où j'ai reçu le prix du judaïsme français. Je vous embrasse. Un ultime souvenir pourtant. C'est une aube du printemps 1942. J'entends qu'on frappe avec une grande douceur au volet de la maison d'Auvergne où nous habitions avec notre père. Nous étions préparés au violent cognement de la Gestapo. Mais la caresse de ceci, que j'entends à peine, me pousse à descendre les escaliers de cette silencieuse demeure, à prêter l'oreille, à ouvrir enfin. Devant moi, un inconnu, une légère valise à la main, la quarantaine, haute stature, front immense, les yeux rayonnants de bonté et d'intelligence, la crainte peinte sur tout le visage. Il murmure « Tu es Claude ?» puis porte un doigt à ses lèvres et chuchote. « Chut, je suis Monsieur Sylvestre. » C'était Moni, Moni de Bouly. Sylvestre, Amédée Sylvestre, était sa fausse identité d'alors. Il en eut tant d'autres. Surmontant sa peur et le danger objectif, il avait passé sous ce nom la ligne de démarcation, obéissant à ma mère, à qui une diseuse de mauvaise aventure avait prédit qu'elle ne verrait jamais ses enfants. Il est resté avec nous quelques jours avant de repartir. Chaque soir, il écrivait à Paulette de sa belle écriture calligraphiée de poète et d'étranger, terminant chacune de ses lettres par les mêmes mots. « À toi, Paulette, à toi seule, éternellement. » Et chaque fois, il me demandait « Veux-tu rajouter quelque chose pour ta mère ?»« Non, Moni. Non, maman. Je n'ai rien à ajouter. »
«
C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.